Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Pendant 20 minutes, on va parler de l'importance de la radio pour les otages durant leur captivité.
Je ne sais pas si elle l'entendra, mais j'ai tellement envie de lui dire ma petite maman chérie.
Mi mamita linda y mi corazón. Te quiero decir ante todo que te amo de toda mi alma. Las palabras no son suficientes para decirte cuánto me haces falta. Me doy cuenta a medida que pasa el tiempo, que pasan los años lejos de tu amor, a qué punto eres una madre y una mujer increíble.
La plupart des noms que vous allez entendre dans cette émission vous seront certainement familiers, car ils ont fait l'actualité pendant des mois, parfois des années, au cours des dernières décennies. Jean-Paul Kaufmann au Liban, Ingrid Betancourt en Colombie, Olivier Denis et Olivier Frappé au Soudan, Hervé Guéquier, Stéphane Taponnier en Afghanistan, Sophie Pétronin au Mali. Toutes et tous ont en commun d'avoir été otages, mais ils ont aussi en commun d'avoir pu écouter la radio durant leur captivité. En s'appuyant sur les archives sonores de RFI et de Radio France, je vous propose d'essayer de mesurer l'importance du média radio pour les otages et l'utilisation qu'en ont eu leurs familles.
L'atelier des médias.
Commençons par le journaliste français Jean-Paul Kaufmann. Grand reporter à l'hebdomadaire L'Événement du jeudi, il est envoyé en reportage au Liban, à Beyrouth, en mai 1985. C'est là qu'il est enlevé. Durant sa longue détention, son épouse Joëlle n'a cessé de se démener, certaine que le bruit médiatique permettrait de garder son époux en vie. Écoutez-la dans le journal de 13h de France Inter du 24 décembre 1986.
Je suis venue pour que Jean-Paul sache que j'étais là. Dans une cassette qu'on a reçue cette année, Jean-Paul dit « Je n'ai aucune nouvelle de toi, sauf ton message radio que j'ai entendu à Noël ». Donc parmi tout ce que vous enregistrez aujourd'hui, comme l'année dernière, on avait fait un petit peu, il avait entendu un message. Ça veut dire que les ravisseurs, le jour de Noël, même si ce n'est pas une fête musulmane, je pense qu'ils ont été sensibles et qu'ils ont donné des radios, peut-être même une télévision. Et ce que j'espère aujourd'hui, c'est ça. C'est que pour Noël, ils lui donnent la radio ou la télévision et qu'ils puissent me voir.
En mai 1988, après 3 ans de captivité, Jean-Paul Kaufmann recouvrait la liberté. 3 jours après sa libération, dans une conférence de presse, il exprimait sa gratitude envers plusieurs médias, dont une radio en particulier.
Moi, je m'étais dit, si je sors de là un jour, je remercierai le Saphir, je remercierai le Nahar, je remercierai Radio Liban. Vous savez, Radio Liban, par exemple, m'a causé à peu près un des seuls bonheurs de ma détention. C'est le jour, c'était à Noël, je ne sais plus, en 85, et j'ai pu entendre sur Radio Liban une cassette dans laquelle mes deux enfants parlaient. Alors vraiment, et à 2 reprises en plus. Et ça, vraiment, c'est un des seuls souvenirs heureux, avec de larges guillemets, de cette détention.
En préparant cette émission, j'ai téléphoné à Jean-Paul Kaufmann. Il n'a pas souhaité m'accorder une interview sur sa captivité. « Il faut passer à autre chose », m'a-t-il dit. Je n'ai donc bien sûr pas insisté. Jean-Paul Kaufmann a toutefois précisé n'avoir eu une radio à son entière disposition que pendant 5 mois sur les 3 ans de captivité. Cet objet et ce qu'il diffusait avaient été une drogue pour lui. Aussi, il m'a confié que cela avait été plus facile psychologiquement pour lui lorsque sa radio lui avait été retirée par ses geôliers. Quand on parle d'otages et de radio, on pense aussi évidemment à la Colombie et aux FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Les FARC ont fait de nombreux otages retenus dans la jungle pendant plusieurs années, comme Ingrid Betancourt, femme politique franco-colombienne, enlevée en 2002 alors qu'elle était en campagne électorale pour l'élection présidentielle dans ce pays d'Amérique latine. Et là encore, la radio a joué un rôle. En décembre 2006, Fernando Araujo parvenait après 5 ans de captivité à fausser compagnie aux FARC. Celui qui, ensuite, est devenu chef de la diplomatie colombienne racontait alors que grâce à RFI en espagnol, capté dans les montagnes du nord de la Colombie, il avait pu suivre l'actualité. Cette confidence a poussé le service Amérique latine de RFI à diffuser des messages à l'intention des otages. Revenons au cas précis d'Ingrid Betancourt. À partir de 2007, ses enfants s'adressent directement à leur mère via la radio. Mélanie Betancourt.
Maman, ce que je veux que tu saches avant tout,
C'est tout l'amour que j'ai pour toi, tout l'amour que moi et Loli on a pour toi. Et que tu saches qu'on n'arrête pas de se battre. Toute la famille, tous les gens qui se sont unis à notre combat se battent pour toi, pour Clara, pour tous les autres otages, pour que vous reveniez le plus vite possible à la maison. Je veux que tu saches qu'on est fort aussi, maman, que je suis fière de toi, maman. Je suis fière de ta force, de ta volonté. Et je veux pas que tu la perdes, cette force. Je peux continuer à croire parce que moi, je sais, maman, que tu vas revenir. Je le sais.
Écoutons maintenant Lorenzo Betancourt, fils d'Ingrid, le 6 décembre 2007 sur RFI.
Mi mamita linda, mi corazón.
Maman, je veux te dire d'abord que je t'aime de toute mon âme. Les mots ne suffisent pas pour te dire combien tu me manques. Plus loin, il dit, Maman, tu veux me voir vivre et je veux que tu vives. Je veux que tu manges le mieux possible et que tu aies le désir de vivre. Je t'enverrai des messages les lundis, mercredis et vendredis par RFI, RCN et Radio Caracol. Tu me manques trop. Je t'aime. Et ce n'est pas tout. Lorenzo Betancourt poursuit en s'adressant aux autres otages des FARC. Je voulais aussi envoyer un message aux autres otages. Ne pensez pas une seconde que nous n'allons pas vous libérer tous. Ce combat, c'est pour vous sortir tous de là. On sait très bien qu'il y a urgence. Le président Sarkozy s'est engagé à vous sortir de là. C'est la première fois que ça prend une telle dimension internationale. Tout ça pour vous dire qu'on va vous sortir de là, que le monde ne va pas vous laisser tomber. Soyez forts. Je vous envoie à tous un message d'espoir. Libérée le 2 juillet 2008 dans des conditions dignes d'un film hollywoodien, Ingrid Betancourt prend dans les heures qui suivent un avion pour Paris. Le 4 juillet, elle tient une conférence de presse à l'Élysée et rend un hommage ému à RFI.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les informations précieuses que vous nous donniez. Nous vous écoutions dans la jungle et c'était très important pour nous de pouvoir vous entendre. Personnellement, je voudrais remercier RFI d'avoir accordé la possibilité à ma famille et à tous ceux qui souhaitaient communiquer avec moi de le faire. Au moment de la diffusion des messages que j'écoutais les lundis, mercredis et vendredis, où que je me trouvais, même en marchant, je prétextais parfois un besoin pressant pour m'éloigner de mes geôliers et sortir mon poste de radio. Je le faisais même si je savais parfaitement que les guérilleros se mettraient très en colère s'ils découvraient ce stratagème. Je voudrais vous dire que pendant ma captivité, les guérilleros avaient pris l'habitude d'écouter RFI, en plus de la radio cubaine. C'était les seuls moments de détente parce que nous avions quelque chose à partager. Les informations diffusées par RFI.
Ingrid Betancourt est ensuite venue dans les studios de RFI.
J'ai essayé de toujours me maintenir parce que c'était la seule façon de nourrir le cerveau. Je veux dire, on n'avait que des pâtes et des lentilles et des arbres à qui parler. Hein. Donc, il fallait absolument se maintenir à l'écoute de tout ce que vous disiez, en particulier Radio France, de vous voir là physiquement, d'être là avec vous, alors que j'ai tellement entendu vos voix et que c'est magique, je trouve, d'être là, de vous entendre, de vous voir.
Je vous propose de réentendre quelque chose qui, on l'espère ici, à RFI, vous aura donné le courage de tenir pendant votre détention.
Mi mamita linda, mi corazón. Te quiero decir ante todo que te amo todo mi alma.
La voix de Lorenzo, votre fils, ma petite maman chérie, je veux te dire avant tout que je t'aime. Vous l'aviez entendu ce 7 décembre 2007
Oui, je l'ai entendu. J'ai adoré tout ce qu'il disait. Ça m'a beaucoup aidé. C'était des moments de... d'intense bonheur. On m'a demandé une fois quels étaient les moments de bonheur. Et je crois que j'ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps, mais je réponds maintenant. Ça, c'était des moments de bonheur. Entendre mes enfants, entendre mes enfants, entendre mes enfants, entendre mes enfants, entendre mes enfants.
En Colombie, les FARC ont à tel point fait des otages politiques un business qu'une émission de radio a même été créée spécialement sur Radio Caracol pour permettre aux familles d'adresser des messages à leurs proches détenus dans la jungle. C'est un certain Gerbin Royos qui a lancé l'émission Las Voces del Secuestro, les voix de l'enfermement. Pendant près de 2 décennies, elle a été diffusée tous les dimanches matins, très tôt.
Radio Francia Internacional y sus radios asociadas presentan Planeta
RFI Le damos la bienvenida a todos aquellos que están esperando ese turno para el regreso a la libertad, a todos esos hermanos secuestrados en las selvas de Colombia. Aquí iniciamos esta cita con la vida.
Ervin Hoyos es el periodista radiofónico creador del programa Voces del Secuestro, que difunde los domingos por la madrugada Radio Caracol de Colombia.
Vous écoutez toujours l'Atelier des médias de RFI, une émission entièrement consacrée aux otages et à la radio. En novembre 2009, Olivier Denis et Olivier Frappé, deux humanitaires français, étaient enlevés en Centrafrique. Emmenés au Darfour, région de l'ouest du Soudan, ils ont été retenus en otage pendant 4 mois. En pleine brousse, ils écoutaient RFI et notamment les magazines radiophoniques comme En Sol Majeur qui, je cite, « leur a changé les idées car il n'y avait pas grand-chose à faire au quotidien ». Si bien que quelques temps après leur libération, Olivier Frappé est venu dans les locaux de RFI à Paris pour rencontrer en personne Yasmine Chouaki et mettre un visage sur une voix. La vidéo de ce moment peut encore être trouvée sur la toile.
Et dans votre malheur, donc, il y avait une radio.
Ouais, alors ça, c'est arrivé un peu après parce qu'on savait pas si on avait trop accès à la radio. C'était pas interdit, quoi, au final, qu'on ait accès au monde extérieur. Et c'est vrai que quand on leur a demandé, ils ont tout de suite, eux, ils écoutaient la radio, donc nous, on leur a demandé on savait qu'il y avait des RFI qui arrivaient jusque-là, avec d'autres radios francophones de temps en temps. Et à un moment, on s'est réveillé un matin, on s'est dit, putain, si on a accès à la radio, ça, franchement, ça pourrait nous... juste écouter une radio, enfin une émission sur les reproductions des fourmis au Guatemala, enfin ça pourrait juste nous changer la vie, quoi. Donc ils nous ont filé, ils sont allés au souk, ils sont allés nous ramener une radio, quoi. Et donc on a pu écouter pratiquement tous les jours, quoi. On avait notre petit quotidien, quoi, bien calé, et en l'occurrence, on essayait d'être comme des petits pépés. Ah, c'est bientôt Sol Majeur. Donc on écoutait assez régulièrement, même très régulièrement, l'émission, quoi.
On change de continent, direction les montagnes d'Afghanistan, où Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, deux journalistes de France 3, étaient enlevés en décembre 2009. Ils étaient partis couvrir la guerre dans ce pays et ses répercussions sur les populations locales dans la région de la Kapisa, au nord de Kaboul. En juin 2010, cela faisait 6 mois que les deux Français étaient otages des talibans. Radio France Internationale a alors décidé d'ouvrir son antenne persane aux familles et amis de Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. Tous les jeudis, des messages destinés aux deux journalistes étaient diffusés pendant 3 minutes à la fin des journaux en persan, entendus sur les ondes en Afghanistan.
Hervé, maman te souhaite que tu reviennes très vite. Prends bien soin de toi.
Steph, c'est maman. Ton père et moi, on pense tout le temps à toi. Et tes amis nous soutiennent beaucoup. Garde confiance, on t'aime très fort.
Après 18 mois aux mains des talibans, les deux journalistes de France 3 ont fini par être libérés le 29 juin 2011. Le 30 juin, ils atterrissaient à Villacoublay. Lors de la traditionnelle conférence de presse sur le tarmac, ils ont salué le rôle important qu'a joué la radio durant leur détention. Le lendemain, le 1er juillet, dans les studios de RFI, Stéphane Taponnier était plus précis. Il était avec Hervé Guéquière. Frédéric Rivière posait les questions.
Moi, ma première préoccupation quand je changeais de maison, c'était savoir si je pouvais recevoir RFI.
Et généralement, si vous avez RFI, toujours pu ?
Non.
Plus ou moins.
J'ai passé des mois sans RFI, oui. Et ouais. Ça, c'est assez déprimant. C'était ma principale préoccupation. Si je recevais RFI, je me dis, c'est bon. Là, je vais pouvoir gérer mon temps. Ça va être tranquille. Mais si j'avais pas RFI...
Il arrivait dans la pièce, il posait son petit baluchon, Stéphane, et il sortait la radio avec sa surantenne, donc une antenne plus une jauge à huile retrouvée par terre dans un coin, enfin,
une
extension d'antenne en métal. Et dans la pièce, il cherchait comme ça, il faisait l'antenne tout seul.
Le point de réception,
ça passe, ouais. ça passe pas quand ça passait pas. Mais ça dépendait des jours, même parfois du temps. Il fait beau, il fait pas beau, les ondes sont capricieuses. Mais c'était la radio avant tout, RFI et BBC.
Alors ça vous a permis à la fois de vous maintenir au courant de ce qui se passait dans le monde et puis d'entendre
et Dieu sait si
la mobilisation.
Non seulement la mobilisation,
et les messages.
Mais les fameux messages. Ouais. Les fameux messages qui nous faisaient quand même un bien fou, c'est d'avoir des nouvelles des proches, parce que 547 jours, on n'a aucune nouvelle de ce qui se passe. D'avoir une voix familière entendue, d'entendre cette voix familière de nos proches à la radio, c'était merveilleux.
Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière se sont accrochés jour après jour aux ondes de leur poste pour rester connectés avec le reste du monde et leurs proches. À l'été 2015, Hervé Guéquière était revenu en longueur pour France Culture sur la place centrale de ce petit transistor à pile durant sa détention en Afghanistan, dont il prenait un soin maladif.
Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur de perdre le peu de choses que vous aviez ?
C'est pas une frayeur, c'est une obsession. L'obsession que la radio ne se coupe pas, qu'on n'ait plus de radio, qu'on n'ait plus de piles, que la radio se casse. Comme les talibans, quand vous leur demandez un truc lundi, vous l'avez généralement le lundi suivant. Faut prévoir. Donc, ne pas tomber à court de piles. Première chose. Généralement, ils me donnaient leurs piles de Tokiwoki, parce que les Tokiwoki, ils font la guerre avec des téléphones portables, mais aussi avec des Tokiwoki. Donc, ils ont besoin de piles relativement... Enfin, tout à fait neuve, et ensuite ils me donnaient les piles à moitié usées. Mais pour la radio, c'est suffisant. Donc ne jamais tomber en panne de piles. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, faire très attention au petit poste. Ne pas le faire tomber, ne pas verser de l'eau dessus. J'ai renversé de l'eau sur mon poste. Dieu merci, ça se passait vers 22-23 heures. Et chaque soir, je le mettais dans une poche en plastique et tout est parti sur le plastique. L'eau a glissé et n'a pas du tout atteint l'appareil parce que je pense que l'appareil était mort. Je me suis fait une frayeur du diable. Voilà, c'est une obsession permanente parce que sans radio, plus de vie, quoi. Je dirais même que c'était mon seul trésor, avec peut-être la brosse à dents qu'on avait aussi négociée. Avant tout, la radio. J'aurais pu me passer de me laver les dents pendant une semaine ou 15 jours, certainement pas de radio. Et d'ailleurs, en mesure de rétorsion, un jour, je ne sais plus pourquoi, bêtise, mon geôlier m'avait... confisquer la radio, mais j'en étais vert, blême, j'étais dans un état d'angoisse absolument fou, et quand il m'a rendu ma radio 48 heures après, pourtant Dieu sait si je le détestais, mais là franchement je l'ai remercié.
Et vous l'écoutiez en moyenne combien d'heures par jour alors ?
Entre 5 et 6 heures par jour, chaque jour, ça c'est sûr.
Hervé Guéquière, au micro d'Alice Milo dans l'émission Les Pieds sur Terre en 2015. Un entretien passionnant de près d'un quart d'heure que je vous invite à écouter dans son intégralité sur le site de France Culture. Retour sur le continent africain. Vous vous souvenez sans doute de Sophie Pétronin, humanitaire française enracinée à Gao, qui avait été enlevée et avait passé 4 ans en captivité dans le nord du Mali. Là aussi, des messages de soutien avaient été diffusés sur RFI. C'était chaque vendredi. Nous ne savions pas s'ils arrivaient jusqu'aux oreilles de l'otage, mais ces bouteilles à la mer étaient consciencieusement envoyées sur les ondes depuis Paris.
Je ne sais pas si elle l'entendra, mais j'ai tellement envie de lui dire « Ma petite maman chérie, je t'en prie, attends-moi. Il y a une mobilisation pour ta cause, un élan magnifique, extraordinaire. De plus en plus de gens se sentent concernés, dans la rue comme dans la sphère politique. Le vent a tourné, alors ne meurs pas maintenant, ma petite maman. » Car les portes, elles vont s'ouvrir. Et ce courant d'espoir va m'amener jusqu'à toi. Où que tu te trouves, je viendrai jusqu'à toi.
Sébastien Pétronin, à fleur de peau. Il a remué ciel et terre pour faire libérer sa mère. Ce fut chose faite le 8 octobre 2020. Ce jour-là, à sa descente d'avion à Bamako, Sophie Pétronin, 75 ans, accordait un entretien à Serge Daniel, correspondant de RFI au Mali.
RFI diffusait des messages. Est-ce que vous les entendez, les messages des vendredis ?
Oui. Bien sûr, tous les vendredis, j'ai eu les messages. Et même au début, un des premiers messages, c'est très antérieur, mais vous dire à quel moment, je ne sais plus maintenant. Une de vos collaboratrices a dit, si elle entend ce message, j'espère qu'il la réconfortera. Voilà, j'ai entendu, alors dites-lui que oui. Il m'a réconfortée. Mais RFI, j'écoutais RFI. Hein. Donc Serge Daniel, j'en ai entendu parler énormément.
Votre fils s'est battu pour vous.
Oui, mon fils est un battant. Mais dans la famille, nous sommes tous des battants. Et c'est peut-être ce qui était le plus difficile à gérer pour moi, c'était de savoir que je l'avais mis dans un problème qui allait sacrément le secouer et lui demander de... surmultiplier son énergie. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait. C'est ce qu'il m'a dit dans une vidéo qui m'a été transmise. Tiens bon, accroche-toi. Donc j'ai dit, oh, s'il me le dit comme ça, je dois le faire. Donc je me suis accrochée, j'ai tenu bon. Et puis, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà.
Sophie Pitronet, merci.
Je vous en prie.
Bon vent.
Merci à RFI pour l'accompagnement. Merci infiniment et au plaisir de se revoir.
C'était Otages et Radio, une histoire sonore, une proposition de l'atelier des médias de RFI. Cette émission a été produite en pensant à chaque instant à Olivier Dubois, journaliste français enlevé le 8 avril 2021 au Mali, à Gao, où l'on écoute RFI sur le 92.1 FM ou en ondes courtes. Olivier, cher confrère, si tu entends ce message, sache que l'on ne t'oublie pas. Tiens bon. Et si l'un de ces geôliers m'écoute, proposez à Olivier Dubois une radio, car peut-être qu'elle l'aidera à tenir le coup. Un grand merci à la sonothèque de RFI, notamment Eugénie Ducré, qui a identifié et parfois numérisé les archives sonores que vous venez d'entendre. Merci aussi à Charles Barré de la documentation écrite de RFI. Avant de se quitter, comme chaque semaine, place à Mondoblog Audio qui fait entendre les blogueurs francophones de RFI. Écoutez le mondoblogueur sénégalais Mamadou Magarem Fall. Il nous explique ce que représente RFI pour lui qui vit au Sahel.
Chez moi, c'est le Sahel. L'air est chargé de sable et de poussière et le sol offre ses immenses bandes de terre couleur de feu. Ici, le désert nous entoure et nous isole. Mais depuis les portes du Sahara, je reste connecté au reste du monde. Chaque matin, en un clic, j'écoute le générique de la radio mondiale dans le casque de mon Android. Les journalistes de Radio France Internationale s'invitent chez moi et me livrent le pouls du monde. Ce rendez-vous m'est familier. Depuis toujours, ce pouls est le mien. Comme des millions d'auditeurs, je vis au rythme du monde grâce à la magie de la radio. Les voix de Radio France Internationale s'écoutent sur tous les continents. Depuis des années, dans ses bulletins d'information et dans ses reportages, RFI nous connecte les uns aux autres. Ici, à Djaminar, il y a toujours un vieux poste pour diffuser le monde dans l'habitat familial. Nos parents ont grandi en écoutant RFI, et nous aussi. RFI nous accompagne, RFI traverse les générations. Nous avons vécu tous les événements majeurs. Aucun point chaud du globe ne nous a échappé. La chute du mur de Berlin, la sortie de prison de Mandela, la poignée de main entre Rabin et Arafat, la naissance de la brebis Dolly, les printemps arabes, le tremblement de terre en Haïti, les robots sur Mars, MeToo, l'Amazonie qui brûle, les parapluies de Hong Kong, rien ne nous a échappé. Radio France Internationale nous informe et décrypte le monde. Elle est le miroir de l'histoire contemporaine. Elle est un instrument éducatif et de liberté d'expression précieux. D'autant plus dans les contrées lointaines ou dans les zones de tension. Parce que RFI s'adresse à tous, son rôle est aussi d'informer ceux qui ne le sont pas. Ceux qui vivent dans les crises et les conflits. Ceux qui subissent toutes les inégalités, les peuples que l'on voudrait faire passer à côté de leur propre histoire. Là où règne l'autoritarisme ou le chaos, là où tout peut basculer pour un rien, là où l'on est réduit au silence, RFI apporte une information claire et compréhensible par tous. Elle apporte la diversité, le progrès, le changement, la compréhension, là où informer est crucial. La radio des voix du monde réconforte les voix étouffées. Grâce à l'information, si fondamentale à toute existence humaine, RFI permet à chacun d'avoir un regard sur le monde et par ricochet sur soi-même. Merci RFI.
Mondoblog.org.
Une ode à RFI par le mondoblogueur sénégalais Mamadou Magarem Fall, instituteur à Louga, dans le nord du Sénégal. Il a joliment titré son blog Courrier Sud.
RFI.
C'est la fin de cet atelier des médias diffusé dans le cadre de la Fête de la Radio, un événement qui célèbre le centenaire de la première diffusion d'une émission radiophonique en France depuis la Tour Eiffel. Je remercie vivement Simon de Creuse qui, comme chaque semaine, a assuré la réalisation de ce programme. Camille Deloche a piloté Mondoblog Audio. Si Si vous avez raté le début à la radio, sachez que l'Atelier des médias est disponible à l'écoute sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. La semaine prochaine, je vous emmènerai à Dakar à la découverte du média La Maison des Reporters et à la rencontre du directeur d'une école de journalisme sénégalaise, l'EGICOM. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.